Et ce soir, on est hyper contents d'accueillir La Chica, une magnifique artiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je remercie aussi la radio Création, c'est la radio de l'Université Paris 8 qui va enregistrer cette masterclass. Donc merci Marie, merci aux étudiantes, étudiants, médiateurs, médiatrices, Elisa, Antoine et Maëlle, à Théo et Clarisse qui sont à la technique, Marie aussi, à Pierre qui est le régisseur de la coupole et qui est présent sur absolument tous les événements qu'on organise ici. Si vous avez des questions durant la masterclass, n'hésitez pas. L'idée, c'est que ce soit interactif. Donc, vous pouvez me faire un petit signe de la main. Je serai assise juste là et je vous apporte le micro. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on m'entend. Donc, bonjour à tous. Comme Juliette disait, merci d'être ici à la coupole avec nous. Nous, on est les étudiants de la radio Création et on est super contents d'animer cette deuxième masterclass. Et pour cette deuxième masterclass, on a la chance d'avoir une artiste qu'on adore ici. Elle s'appelle La Chica, elle est franco-vénézuélienne. Elle nous fait l'honneur d'être là ce soir. J'aimerais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Donc voilà, comment ça va ? T'es contente d'être là ?
Ouais.
Eh bien, super. Ça va. On va commencer direct avec la question que tu m'as dit qu'il ne fallait pas du tout poser en interview.
J'ai pas dit ça. Tu m'as demandé que c'était la pire question à poser. Je
te réponds. On va poser la pire question au début d'interview, comme ça on s'en débarrasse. Pourquoi tu t'appelles La Chica ?
Pourquoi je m'appelle La Chica ? Je m'appelle La Chica parce que, à chaque fois qu'on me pose cette question, je donne une réponse différente. Je m'appelle La Chica parce que pendant longtemps, j'ai été très masculine, plus masculine que maintenant. Et un oncle à moi avait tendance à m'appeler Chica pour me rappeler que j'étais une fille, parce que Chica, ça veut dire donc la fille. Sous-entendu, tu te comportes comme un homme, mais ça va pas, reviens à tes racines féminines. Et ça me posait problème à l'époque parce que je comprenais pas pourquoi j'avais besoin d'être rappelée à ça. Et durant l'adolescence, ça me saoulait particulièrement. Puis après, en grandissant, je me suis rendu compte que, en vérité, pour être une fille de nos jours dans ce monde, on a besoin d'embrasser cette dualité féminin-masculin. On a besoin de connecter avec les deux côtés. Et j'ai appris à équilibrer un petit peu pour mon bien-être, cette dualité. Mais au moment de chercher un nom artistique, ça m'est revenu et ça avait beaucoup de sens sur le moment. Et ça, c'est la vraie raison.
C'est la vraie raison. Fois que je le dis, ouais. Pour la première fois, tu nous fais l'honneur de nous dire la vraie raison. Et c'est vraiment super sympa. Je voulais juste rappeler aussi que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a Juliette qui a un micro et qui pourra vous le donner. Je pense qu'on peut passer à la question suivante.
Donc, trop bien que tu sois là. Et je voulais te poser, je vais un peu direct dans... Là, on est plutôt dans les bases. Comment est-ce que tu décris ta musique ?
Je ne la décris pas parce que ça ne m'intéresse pas de la décrire. Mais si on me demande des mots ou des adjectifs, je peux dire arty, pop, hybride, en espagnol.
On comprend que dans ta musique, l'influence latine, elle est hyper présente. Pourquoi elle est présente dans ta musique, cette influence latine, cette composition presque, latine, tout ça. Pardon.
J'ai l'impression de faire une musique qui me ressemble. En tout cas, j'essaye de faire une musique qui me ressemble parce qu'au moment de composer, je réfléchis pas. Le but, c'est de laisser l'intuition parler. Et quand on se raconte dans ces moments-là, on n'est pas en train de réfléchir à qui on est. On est en train de laisser parler le corps, les émotions. Je pense que je suis faite d'un collage de tellement de choses. Il existe effectivement ce côté caribéen, vénézuélien qui m'a nourrie toute ma vie. Et c'est un assemblage de toutes ces choses que j'ai fini par intégrer et assimiler et qui fait qu'au moment où je me mets à m'exprimer, y a certains aspects qui ressortent. Donc je ne saurais pas t'expliquer pourquoi ni comment, mais je pense tout simplement que ça fait partie de moi. C'est de mon essence.
Et est-ce que tu as des influences qui ne sont pas forcément d'Amérique du Sud, des influences qui peuvent être françaises ou anglo-saxonnes, américaines, t'ont marqué et qui ont permis de construire la musique que tu fais maintenant ?
Je pense que j'ai une grande influence anglo-saxonne de toute la musique anglo-saxonne depuis les années 60 jusqu'à maintenant.
Les Beatles ?
À commencer par les Beatles, ouais, et puis continuer par beaucoup de rock progressif, beaucoup de, je sais pas, en passant par Radiohead, James Blake, tout le garage anglais, Broken Beat. C'est un son qui me paraît intéressant depuis que les Anglais se sont mis à faire de la musique.
Ok, et tu fais beaucoup de piano-voix. Est-ce que tu as aussi des influences, par exemple, dans les compositeurs ou dans des pianistes qui sont peut-être un peu plus vieux ? Est-ce que tu es plus, par exemple, Chopin ou alors des pianistes genre Ray Charles ?
Je suis plus Debussy que Chopin.
Debussy, ouais.
Et je suis plus Herbie Hancock que Ray Charles.
Ok, d'accord. Ouais. Avec du coup des influences qui sont déjà plus hybridées que ce que peut être Ray Charles.
Ouais.
Des trucs qui passent par le jazz. Il y a aussi un peu de musique sud-américaine dans ce qu'il fait.
Complètement.
Ok, ouais, super. Ouais.
Ah oui, bah alors moi je te connaissais absolument pas, je vais avouer. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est cliché, mais j'ai regardé Wikipédia. Et donc avec Antoine et Lisa, on en parlait et on a su que tu étais ingénieur du son, c'est ça, avant de te.
J'ai fait des études d'ingénieur du son, d'accord. Mais je suis pas ingénieur du son.
Non,
il aurait fallu que je continue à travailler dans cette branche pour pouvoir prétendre être, enfin faire cette profession. Ouais. Mais par contre, oui, j'ai beaucoup de notions de son et d'électronique, ce qui m'a servi beaucoup dans ce que je fais.
Ok, ouais. Du coup, j'imagine que c'est ça qui a pu t'aider pour, par exemple, la construction de tes sons, de tes parts, enfin plein de choses comme ça, notamment tout le côté technique,
oui.
En fait. Ouais.
Oui, oui, entre autres. Après, une école de son, ça reste une école qui propose un enseignement qui est assez théorique.
Oui, ouais. En fait, j'ai l'impression que ça donne une certaine liberté de savoir faire tout l'aspect technique aussi, comme ça on peut. On maîtrise le côté artistique plus technique et donc ça vient de nous jusqu'au bout. Et je parlais avec beaucoup d'artistes qui me disaient que oui, le côté technique quand même c'était vraiment important, comme ça on pouvait aller jusqu'au bout de ses idées. Et donc j'imagine que c'est très intéressant et important aussi d'avoir ce background, ce package.
Complètement.
En fait,
Et en plus c'est en mouvement, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais d'évoluer. Donc il y a tout le temps des choses, enfin il faut faire une mise à niveau régulière et qui est hyper intéressante, je trouve.
Aussi, on a vu que tu avais, avant de te lancer en solo, beaucoup tourné avec différents artistes, notamment Pauline Cross, si je la prononce bien, je ne sais pas. Aussi, on a Christophe Maé, ouais. Et aussi Yael Naïm. Ouais. C'était comment ces années-là ? Et est-ce que tu aimais déjà tourner même si c'était pas encore ton projet solo et tout.
C'était des années super. Effectivement, j'ai fait ça pendant 12 ans avant de lancer mon projet. J'accompagnais des artistes en tournée, essentiellement sur scène, un peu en studio, mais essentiellement sur scène. Et c'était génial parce que ça m'a amené à jouer plein de types de musiques différentes et d'accompagner des personnalités musicales différentes. Ce qui m'a enseigné... le caméléonisme, l'adaptation à tout. Et ça m'a apporté énormément d'expérience de scène. Parce qu'avec certains artistes, j'ai été amenée à jouer dans des conditions incroyables, sur des scènes énormes. Et c'était super de vivre ça. J'ai appris plein de choses. Même si c'était, la musique ne ressemblait pas à ce que je voulais faire, même si je ne comprenais pas non plus trop le système de fanatisme qui existait autour de certains artistes. C'était hyper intéressant de vivre l'expérience. Et quand valider le discours de ces personnes-là a commencé à être difficile pour moi, c'est là que j'ai arrêté, parce que je n'avais pas envie de détester ça. J'aimais beaucoup accompagner les gens, mais je sentais que ça arrivait à sa fin.
Mais qu'est-ce que tu entends par ça, que tu allais détester ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais parce que quand on est sur scène et qu'on accompagne quelqu'un, on devient un peu son avocate. C'est-à-dire qu'on va parler, utiliser ses sons et sa musique comme des mots, et on va raconter et représenter un discours. Et le discours de certains artistes commençait à plus me parler, que ce soit à travers les mots comme à travers les sons. Et donc c'était difficile de défendre ça, tout simplement.
Donc, on a vu que tu as été, que tu as accompagné des artistes. On a vu aussi que tu avais été dans un groupe qui s'appelle Threesome Sisters. Et donc, on s'était dit que oui, de faire une tournée avec des gens, c'est très bien. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie par la suite de te lancer seule? Parce que ça demande, j'estime que ça demande beaucoup de courage, parce que d'être accompagné, puis ensuite de se lancer tout seul. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Pourquoi cette impulsion?
J'avais trop de choses à dire. J'avais besoin de m'exprimer plus que jamais. C'est une période, ça correspond à une période où j'ai arrêté d'aller au Venezuela parce que le pays a commencé à plonger dans une crise assez aiguë. Et juste avant ça, je passais 6 mois de ma vie là-bas et 6 mois en Europe. Donc j'alternais beaucoup les deux continents. Et en fait, cette crise, elle m'a fait rester en Europe pendant un moment, et je l'ai très mal vécu. Et j'ai nourri un sentiment de frustration, de tristesse, d'inutilité, de... Comment on dit impotencia? Quelqu'un parle espagnol ici?
Impuissance.
Merci. Et donc, si je transformais pas ça en quelque chose, j'allais devenir pas très sympa comme personne.
Et donc le format du groupe que tu avais avant ne te permettait pas d'exprimer ce que tu avais en toi, ça te retenait?
Ben oui, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est des choses très personnelles que tu as envie de raconter, et mon discours n'allait pas forcément rentrer dans le cadre de ce qu'avaient à raconter les autres membres du groupe qui n'étaient peut-être pas concernés par cette question.
D'où l'arrivée du premier album en 2019, c'est ça?
J'ai fait un EP avant
un
ça.
Un EP.
J'ai sorti un premier titre en fin 2015, mm-hmm. un EP en 2017 et l'album en 2019.
L'album donc qui s'appelle Cambio,
Cambio.
Qui veut dire changement, si
ouais.
Voilà, et donc qui exprime toutes ces choses que tu avais en toi à ce moment-là.
Ouais.
Ah oui. Ouais, bah. donc aussi.
J'ai préparé une petite choré quand même. De questions.
On attend les questions du public. Du coup, pour oui, l'instant, aussi. On fait un petit ping-pong. N'hésitez pas, hein, surtout.
Oui. On avait vu que tu collabores avec El Duende, donc c'est un orchestre. Et est-ce que ça a été dur de revenir à une, est-ce que ça a été dur de revenir à une création en collaboration? Parce que du coup, comme tu es passé de un trio, du coup, bah oui, un trio, ensuite solo, et ensuite repartir avec d'autres gens. Comment tu l'as senti cette chose-là?
Mais j'avais déjà joué dans plein de groupes avant. Le groupe ouais. que j'ai eu là, c'était un de mes groupes de cœur préférés, mais j'avais déjà joué dans des groupes avant. Et il y a eu un long développement du projet en solo pendant des années, parce que pour des questions de budget, et aussi c'est plus facile des fois de se mettre d'accord qu'avec soi-même que d'entraîner 4 personnes. J'avais un besoin d'efficacité qui m'a fait me dire qu'il fallait que j'avance seule, il fallait que je trace toute seule. Et c'est vrai que j'ai redécouvert un peu l'expérience de la communauté et du groupe avec cet orchestre. Mais comme ce sont toutes des personnes extrêmement bienveillantes, pleines d'amour, ça n'a pas été très compliqué. Ça, j'ai vu mes tendances et mes défauts, et je me suis très vite contrôlée. J'ai essayé de lutter contre certains réflexes que je pouvais avoir du fait d'être un peu sauvage. Parce que quand tu es seule beaucoup, tu te renfermes. Et c'était finalement l'expérience dont j'avais besoin.
Comment elle est née cette collaboration du coup? Parce que c'est pas original, mais je dirais, vu le style de musique que tu fais, faire ça avec un orchestre, c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé à prime abord. Mais au final, ça se marie bien. Et donc, d'où est venue cette idée, cette collaboration, tout ça?
J'ai toujours voulu travailler avec un orchestre parce que je pense que les chansons peuvent avoir plein de formes différentes. Et moi, j'adore arranger de manière différente. Je l'ai fait quand je suis partie en tournée en piano-voix et que j'ai repris tous les arrangements électro et que je les ai transformés en piano. Et j'aime beaucoup faire ce travail. Donc, le faire avec un orchestre, c'était encore plus fou parce que c'est un terrain de jeu qui est plus ample, plus large. Et c'est grâce à un ami à moi qui s'appelle Marino Palma, qui est franco-colombien et qui est un ami d'enfance et qui a eu la même prof de piano que moi et qui m'a dit juste après avoir perdu son père qu'il avait envie d'arranger des morceaux à moi, particulièrement ceux qui parlaient de la mort, ceux qui étaient en relation avec notamment la transformation des émotions, du deuil, parce que moi j'étais passée par le deuil de mon frère. Et donc on a été reliés par cette expérience de la mort. Et quand il m'a proposé ces arrangements, je les ai trouvés tellement beaux que je lui ai proposé de le faire sur tout le reste du set. On a fait ça ensemble. Et on n'avait pas de partenaire, mais on s'est dit qu'on allait quand même tenter de tourner avec ça.
Donc, ce nouvel album, La Chica y el Duende Orchestra, il raconte quoi ?
Il raconte ça. C'est des chansons qui existent déjà. Donc, ces chansons, elles parlent... Il y a plein de sujets différents, mais en fait, cet album, il raconte cette connexion qu'on a tous les deux avec nos morts, la connexion qu'on a avec l'inframundo, qui est encore, on va dire, un niveau dimensionnel différent, qui n'est pas le paradis ou l'enfer, mais qui est cette dimension dans laquelle vont les personnes qui décèdent. Et la volonté de cette musique, c'est de pouvoir se mettre dans un état de transe qui permet une connexion. Quand on est en train de jouer ces morceaux avec cette forme-là, ça permet une nouvelle configuration de communication avec les morts. Parce qu'on sait que la musique, particulièrement sur scène, elle a cette dimension, elle permet d'entrer dans un état d'hypnose qui t'amène à avoir ce type de connexion.
Ouais. Et c'est vrai que on le ressent dans ce nouvel album, mais aussi tes autres albums, enfin ton autre ton EP aussi. C'est ça. J'avais raison. Et donc ta musique, elle est très spirituelle et très en lien avec le chamanisme aussi. Est-ce que tu considères des fois tes musiques comme des incantations un peu ? Comment, à travers tes musiques, ce lien avec la spiritualité, tu le fais sortir ? Comment ça se fait qu'on sent autant possédé un peu par tes musiques ?
C'est une bonne question. Il y a toujours une dimension spirituelle. Je ne la détache pas du reste, en fait. Ce qui me plaît dans le fait de faire de la musique et de la présenter sur scène, c'est que ça me permet d'installer des rituels que j'ai besoin de faire régulièrement, ça me permet d'avoir accès à des aspects de moi qui s'exprimeraient pas dans un autre contexte. J'ai l'impression que je suis très nombreuse, qu'on est très nombreuses à l'intérieur de moi-même. Et si j'ai pas ce contexte scénique, je peux pas exposer, laisser la panoplie de personnages s'exprimer. Donc il y a une dimension spirituelle, mais il y a aussi un rattachement très fort à la terre. Il y a des chansons qui me ramènent justement à ça. Sinon, je serais fly tout le temps et ce serait compliqué en vrai, parce que je suis déjà un peu fly. Et justement, j'ai besoin d'aller chercher cet ancrage. Tu parlais de chamanisme, on peut faire un parallèle entre le chamanisme et la musique dans le sens où le chamanisme, c'est une médecine et la musique a des vertus guérisseuses. Elle a des vertus, elle aide à soigner, à passer des étapes, elle peut faire du bien, elle peut calmer, apaiser. Donc oui, on peut faire un parallèle entre les deux, et c'est vrai que plus on se met dans un état de concentration adéquat pour vivre le moment de la manière la plus intense ou profonde qui soit, plus ça fait du bien. Et donc il y a cette première étape qui doit être installée avec soi-même, et après essayer d'embarquer les gens et voir si ça marche.
Et depuis toujours, tu sens ce lien avec cette spiritualité, depuis même enfant, ou ça s'est développé au fur et à mesure de ta vie ?
Non, depuis toujours. J'ai été élevée dans ça, absolument sans mysticisme, dans le sens où, par ma grand-mère, ce que j'ai senti et compris, c'était que j'étais pas différente d'un oiseau ou d'une plante. Donc, partant de ce principe-là, si je dois rentrer en résonance, ça va passer par, j'ai envie de dire ce qui m'entoure, mais c'est mal dit parce que j'en fais partie, donc ça m'entoure pas d'un tout. Et j'ai jamais pris ça pour de la folie ou de la religion, mais ça m'a paru toujours très, très naturel dans ma vie. Donc, je me suis même détachée de ça par moments, de manière à pas à pouvoir fitter dans le système. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes, mentaux et physiques.
Et tu parlais d'atteindre un peu des formes différentes de toi-même quand tu faisais de la musique. Comment tu fais pour, dans un concert, te remettre dans ces états et être prêt à communier avec le public? Peut-être qu'il y a des choses qui ont tellement changé depuis que tu as composé telle ou telle chanson. Est-ce que tu arrives toujours à te reconnecter à la chose première de cette chanson, ou alors est-ce que ça évolue au fil du temps?
Les chansons, elles peuvent évoluer. Elles peuvent raconter un truc au départ. Certaines, je ne sais même plus de quoi je parlais au départ. Et maintenant, quand je les chante, elles viennent s'accrocher à d'autres états du moment, à d'autres émotions. Et il y a un truc il y a un niveau de concentration à choper avant, presque avant la balance, au moment où tu es en train de faire le soundcheck, puis après dans la préparation, avant de monter sur scène pour pouvoir atteindre cet état-là. Et si je ne l'atteins pas, ça ne m'intéresse pas. Donc je fais tout pour à chaque fois.
Et tu n'as jamais essayé de chanter en français? Tu as déjà chanté en français? Est-ce que c'est un exercice qui t'intéresse?
Ouais, j'essaie régulièrement et c'est nul. C'est vraiment pas... Non, c'est un exercice qui est difficile parce que le français, c'est une langue qui est difficile à faire sonner. Elle est fermée, c'est des on, des en, des entre, un cr, cran, cr. Et ça, à mettre en musique... Moi, j'ai besoin que la musique sonne d'elle-même, d'abord. Ensuite, je me prends la tête vraiment à faire des paroles qui veulent dire quelque chose et tout, mais il faut que les sons soient là. Et c'est difficile avec le français. Donc, je ne suis pas fermée, mais je n'arrive pas encore.
Donc, quand tu fais de la musique, c'est la musique qui vient d'abord,
ouais.
C'est pas les paroles.
Non, parce qu'en vrai, je suis plutôt timide, donc j'ai pas forcément envie que
T'es
gens...
T'es plutôt timide.
Ouais, je suis très timide, en vrai.
On fait des énormes concerts avec Christophe Maé en étant timide.
Ça s'appelle de la thérapie.
Et du coup, ça fait partie de cette transe un peu de la scène, on oublie tout.
Mais j'en suis venue à faire de la musique parce que j'arrivais pas à m'exprimer socialement avec des mots. Donc c'est vraiment, j'ai été pianiste et clavieriste pendant 12, 13 ans, 14 ans peut-être, avant de commencer à chanter. Donc être sur scène et jouer un instrument, c'est pas pareil qu'être devant, au centre, et faire sortir la voix. Ça, c'est être toute nue. Alors que jouer caché derrière un meuble, ben ça rend l'exercice plus facile, pour moi en tout cas.
Comme Beyoncé, t'as une forme d'alter ego, quoi. Non.
Comment s'appelle l'alter ego?
Sacha Fierce. Sacha Fierce, voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, il y a peut-être une question.
En fait, il y a quelque chose qui m'a tapé à l'oreille. Je sais pas si je l'ai bien lancé. Bref, c'est ce que tu disais, c'est que tes chansons sont nées là-bas, au Venezuela. Mais ma question était parce qu'on parlait avant d'inspiration, et j'imagine que et toi qui es venu ici, t'as dû passer beaucoup de temps, comme tu disais, dans la ligne J. Donc, ces chansons, quand tu dis qu'elles viennent du Venezuela, c'est de la mémoire que tu as de là-bas, c'est un hommage ou une connexion que tu as avec ta terre et que tu essayes de faire passer avec ou de te connecter avec ta musique. Et c'est de là où viennent tes chansons?
Elles viennent de moi, les chansons, elles ne viennent pas de là-bas. Peut-être que si elles venaient de là-bas, je ferais une musique plus folklorique et peut-être plus représentative du pays. Mais elles viennent de moi, donc elles viennent déjà d'une transformation... à travers mon expérience, à travers qui je suis et comment je vois les choses. Et c'est pour ça que c'est un discours qui est très personnel. Et j'ai du mal à représenter une terre ou un drapeau, parce que ça veut dire des frontières, parce que ça veut dire tout le chaos ambiant qu'on connaît là, à l'heure actuelle. Donc voilà, je tiens toujours à préciser que c'est mon discours, c'est un discours qui est vraiment très personnel. Et c'est forcément donc ma vision, oui.
Bonsoir, pardon. Je voulais vous poser la question si, pendant le processus créatif, qu'est-ce qui venait en premier, si c'était la mélodie ou l'émotion?
Ça dépend. Il y a des morceaux qui ont été construits sous le coup d'une émotion intense. Je pense à l'album Avant l'orchestre. C'est un album piano-voix qui a été composé pour mon frère après sa mort. Et j'étais dans un état de PLS émotionnel aigu, et il fallait que ça se transforme. Et j'ai eu l'impression d'aller chercher vraiment à l'intérieur de moi-même, de sortir les viscères, de les mettre sur une table, de ne pas savoir quoi faire. Donc là, il n'y avait pas de mélodie vraiment pour moi en tête. C'était de l'émotion et de la sensation de peine, de souffrance pure, qui ensuite se sont, ont pris une forme un peu plus acceptable pour être reçue de la part de l'oreille d'un auditeur. Donc dans, cette, dans ce, ce cas précis, c'était vraiment que de l'émotion. Et à d'autres moments où j'ai envie de m'amuser avec une mélodie ou avec une rythmique, et donc on part dans une direction complètement différente.
Bonsoir. Bah, y a une question qui me traverse. Est-ce que je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à devenir musicienne et aussi qu'est-ce qui te fait, est-ce que tu te sens légitime, est-ce que tu t'es sentie légitime pour devenir musicienne, parce que je pense que c'est une question qui traverse pas mal de musiciens aussi comme bah, Lassa de Sela ou d'autres musiciennes. Du coup je voulais voilà, savoir comment c'est pour toi.
C'est une vraie question, la question de la légitimité. Pendant très longtemps je me suis pas sentie légitime. Je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas, j'étais très complexée parce que j'ai fait du piano classique quand j'étais petite, mais j'en faisais dans ma chambre et il y a personne qui écoutait vraiment, enfin par ma mère, c'était pas mis en avant particulièrement, j'avais pas vraiment de musiciens autour de moi, donc c'était vraiment un moyen d'expression directe. Et par la suite, je me suis mise à jouer dans des groupes. J'avais déjà 23 ans, entre guillemets. Mais parce que c'est finalement un peu tard dans le, on va dire, dans le cursus général des musiciens qui vont jouer du jazz, la musique actuelle, etc. C'est déjà tard pour commencer. Donc j'étais assez complexée. J'avais l'impression qu'il me manquait du vocabulaire technique. Donc je bossais comme une malade, mais c'était difficile de rattraper le niveau aussi vite. Et surtout, je pense que j'avais une idée en tête qui était celle d'accomplir des choses très virtuoses, alors que finalement, j'avais une manière de présenter un discours plus simple. Mais je ne l'assumais pas, donc je ne me sentais pas légitime. Et j'ai eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de femmes dans la musique, parce que j'ai été amenée à participer à des systèmes de mentorat, c'est ça. Donc j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se lancent dans leur projet pour la première fois, et la première question qui arrive à chaque fois, c'est celle de la légitimité. Et j'ai fait du coaching pour des groupes d'hommes, et c'est marrant parce que ça n'existe pas. Je crois que c'est un truc très féminin de se poser la question de savoir si on est en droit de faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on le sait que le système n'est pas bâti autour de nous. Donc, quelle que soit la branche de travail qu'on va choisir, on est sans cesse en train de se poser la question de comment on est en train de l'aborder, parce que le patron est fait pour un homme. Donc, moi, ça m'a pris énormément de temps, même si je me suis absolument affirmée dans le métier de side woman. J'avais du travail, j'avais une super carrière, on m'appelait tout le temps, mais j'ai entendu toutes les réflexions possibles et imaginables. On m'a dit notamment, tu joues bien pour une fille, qui peut paraître assez lunaire maintenant. Mais en vrai, ça existe encore, cette mentalité de se dire, c'est bien, c'est impressionnant pour une fille, parce que les filles ne sont pas censées faire ça. Donc, je pense que le fait d'avoir choisi d'être musicienne sur scène et d'accompagner des gens, c'était déjà une rébellion en soi. Puis ensuite, le fait d'avoir lancé mon projet en solo en tant que chanteuse, alors que j'avais pas 15 ans de métier de chanteuse derrière moi, et surtout j'avais 35 ans, je me suis pris des flèches de partout. Et c'est quand je me suis pris des flèches de partout que je me suis dit, ah mais ça doit être parce que je suis à la bonne place. Parce que si c'est en train de déranger, c'est justement parce que je suis légitime de le faire. Mais donc, c'est un processus qui prend du temps et ça m'a demandé énormément d'expérience et de réflexion, d'auto-réflexion sur le sujet pour pouvoir me sentir à l'aise avec ça.
C'est ouf parce que ton album La Loba, c'est par La Chica, mais est-ce que tu es un peu aussi La Loba?
Le temps d'un morceau, oui. Le temps d'un morceau, oui. Après, oui, c'est la loba, c'est une légende mexicano-texane, on va dire, de la zone nord du Mexique, dont on m'avait parlé quand j'étais petite et que j'ai redécouverte dans un livre qui s'appelle « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes. Cette femme, elle reprend le mythe de la femme sauvage à travers différentes légendes et différents contes. Et il y a notamment cette histoire de la loba qui est donc l'histoire d'une femme qui a un pouvoir très particulier. Donc naturellement, elle a été mise en marge de la société parce que les hommes ne comprennent pas son pouvoir. Donc ils l'éjectent du système. Elle se retrouve à vivre dans la forêt. On la traite de sorcière. Elle est poilue. En fait, on lui donne le nom de sauvage. Donc, on dit qu'elle ressemble à une louve parce qu'elle vit dans les bois. Elle devient animal. Elle sort du système, donc elle n'est plus humaine. Donc, elle devient animal. Elle devient une louve pleine de poils, soi-disant. En fait, c'est juste qu'elle a le pouvoir de redonner vie aux corps éteints. Elle va ramasser des os qu'elle trouve dans la forêt. Elle chante au-dessus des os. Et son chant sacré, avec son tambour de chaman, redonne la vie, le squelette se reforme, les muscles, la peau, etc. Cette légende, elle me plaît beaucoup parce que, pour moi, elle symbolise tous les moments de vie, ou les épreuves de vie, où on se sent mourir. On a l'impression qu'on va jamais pouvoir revivre suite à un événement de vie, une épreuve de vie. Et on a cette résilience en nous, particulièrement les femmes, on a ce pouvoir de renaissance après des épreuves terribles, parce que ça fait quand même depuis la nuit des temps qu'on essaie de nous terminer et qu'on est malgré tout encore là. Donc c'est un truc de fou, on a un pouvoir de fou. Mais pour ça, il faut être en connexion avec sa nature instinctive, avec sa nature animale, et c'est ça qu'elle raconte, cette femme. Et moi, ça m'arrive à un moment de ma vie où je me pose des questions sur les différentes étapes où je me suis sentie vraiment mourir de l'intérieur, et je pensais que j'arriverais jamais à surpasser ce moment. Et il y a une espèce de boule d'énergie, de feu, de renaissance que j'ai eu envie d'envoyer à toutes les femmes de cette planète. Donc j'en ai fait un chant plutôt féministe qui, moi, m'a aidée à rallumer la flamme pour pouvoir revivre après la mort de mon frère, mais après d'autres épreuves de vie aussi qui ont été très dures. J'ai eu envie de partager cette énergie-là. Donc oui, la loba, elle peut m'habiter par moment, et en tout cas sur scène à ce moment-là, elle prend de l'importance.
Et quand tu te prends des flèches aussi, comme ça, dans la légitimité d'être musicienne, bah paf, t'es la loba, oui. Quoi.
Cette figure de la sorcière, de la femme en dehors de la société.
Il y a une rébellion qui est très installée en moi depuis toujours, et un côté très punk dans l'état d'esprit.
Mais d'ailleurs, le punk, t'as des influences dans le punk ?
J'en ai écouté beaucoup et j'ai été élevée dedans par mon père.
Ah, ton père, du coup, était punk lui-même ?
Il était punk anarchiste, oui.
Ah oui, d'accord. À Belleville, du coup.
Ouais.
C'est quoi la connexion que tu as avec Belleville ? Parce que, encore une fois, source Wikipédia.
Oui, sur Wikipédia.
Et ton site web.
Je ne sais pas qui a écrit ce Wikipédia. Hein. Je n'arrive pas à l'enlever. Oui, j'aimerais bien pouvoir avoir accès à ça.
C'était une bonne question. Tu t'es appelée la chica Belleville pendant un moment ?
J'ai juste utilisé Belleville comme un titre pour rajouter sur les réseaux.
D'accord.
Parce que quand je me suis présentée sur les réseaux, j'existais déjà depuis quelques années en tant que la chica. Mais sur les réseaux, la chica, ça veut dire la fille. Donc il y a plein de filles à poil. Il y a la chica banana. C'était terrible. Donc je mettais la chica et on tombait que sur des trucs qui ne correspondaient pas à ce que je voulais raconter.
C'était pour le référencement.
Donc pour le référencement, j'ai dû rajouter comme un titre.
Belleville.
Et je me suis dit que j'allais faire le pont entre les deux.
Et donc c'est quoi, tu as une connexion qui est très forte avec le Venezuela, mais c'est quoi ta connexion avec Belleville ? Est-ce que c'est la même ailleurs ou alors est-ce qu'elle est différente ?
Ça vient toucher d'autres aspects de moi-même, ça vient raconter... ça vient peut-être raconter aussi ce côté plus punk. J'ai grandi dans ce quartier dans les années 80-90. À l'époque, c'était vraiment, vraiment, vraiment très populaire. C'était même ghetto. Et ça s'est amélioré depuis. Ça s'est même gentrifié. Mais à l'époque, il y avait un côté très violent et en même temps très village et très, très agréable parce que les gens venaient de partout. Il y avait quand même une acceptation de la culture de l'autre. Et je crois que ça m'a nourri énormément. Il y avait énormément d'art. Il y avait à l'époque les ateliers portes ouvertes des artistes de Belleville. Donc c'était assez puissant comme endroit. Mais je ne sais pas, quand on est petit, on ne se pose pas trop ce genre de questions. Et ça m'a nourri aussi.
Donc, j'avais une question. En fait, j'ai vu une fois une interview de Sting qui a dit quelque chose qui m'a tout de suite évoqué votre musique et qui a mis un peu des mots sur les émotions que je ressentais avec votre musique. Il parlait de la structure musicale et des ponts, et comment pour lui les ponts faisaient une sorte de thérapie. Et en fait, quand il y a des tensions dans la chanson, ces ponts tout d'un coup faisaient une sorte de libération des tensions. Et justement, savoir si c'est quelque chose qui vous parle, qui est évident pour vous.
Carrément. Je pense notamment qu'il parle de la tension qu'on peut installer entre un couplet et un refrain. Et en général, la libération, elle vient sur le pont, ce qu'on appelle le pont, le bridge. C'est-à-dire on sort peut-être de l'harmonie principale et on va vers une ouverture. Et c'est ça qui peut procurer énormément de relief.
Oui, libération.
Libération, merci. C'est pour ça que c'est quand même de l'autothérapie, le fait de faire de la musique. C'est qu'on s'offre la possibilité de vivre ces moments-là à travers quelque chose qu'on a composé. Mais donc, il faut accepter d'aller chercher le malaise ou la tension pendant un moment pour pouvoir ensuite le relâcher.
Bonsoir. Je m'appelle Lucille, je suis une ancienne étudiante de Paris 8 et je voulais vous remercier d'avoir organisé ce moment-là. C'est super chouette, je suis très émue d'être ici ce soir. Quand je suis venue vous voir à Saint-Ouen, à l'espace 1789, c'était avec des femmes des quartiers prioritaires. C'était dans le cadre d'un projet artistique et social. Et ça avait été super parce que vous parliez de pouvoir. Et ça avait été vraiment génial parce que, en tout cas, cette journée-là, enfin, cette soirée-là, vous avez eu vraiment du pouvoir sur ces femmes et sur moi aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous êtes une femme de pouvoir? Est-ce que vous sentez que vous en avez? Est-ce que vous le faites d'une super manière dans la musique? Et est-ce que politiquement aussi, vous avez l'impression que vous avez du pouvoir dans une certaine forme d'engagement, dans d'autres actions qui ne sont pas forcément la musique, en tant qu'artiste en France aujourd'hui? Voilà, c'était ça, en gros, ce que je voulais vous dire.
Et merci déjà pour ton témoignage de ce moment. Ça me touche énormément parce que c'est très important pour moi qu'il y ait une résonance chez les gens du public et particulièrement les femmes. Donc je suis contente de savoir que ça circule. Je ne sais pas si c'est du pouvoir. En tout cas, pour le coup, je crois en le pouvoir de la musique et je crois en la responsabilité qu'on a en tant qu'artiste parce qu'on est quand même le reflet de ce qui se passe autour de nous. Et c'est intéressant d'en parler et de le raconter tout simplement pour que ça soit marqué dans le temps et qu'on se rappelle que ça a existé. Il y a une artiste qui est très importante pour moi, qui est Nina Simone, et qui a une vie hardcoreissime et qui a toujours raconté tout ça à travers ses sons et la musique. Ça l'a rendue extrêmement puissante. Pourtant, je pense qu'elle a souffert toute sa vie. Et je ne sais pas si elle s'est sentie puissante à un moment donné. Mais en tout cas, elle a fait du bien, elle nous a fait du bien. Et c'est ça le pouvoir et l'importance de la musique. Et j'ai l'impression que les temps sont tellement dark et on se dirige vers quelque chose de tellement difficile que oui, je crois en le pouvoir de la musique et je crois plus que jamais en son importance parce qu'on peut arriver à toucher les gens différemment grâce au son. Souvent, je me dis que si je sortais dans la rue avec un mégaphone et que je me mettais à hurler ce que je pense vraiment, personne ne me calculerait, les gens me demanderaient de rentrer chez moi et m'insulteraient. Et pourtant, c'est exactement ce que je fais sur scène, mais avec d'autres moyens et une autre forme. Et c'est pour ça que c'est important de bosser la forme et de comprendre quelle est la forme qui va permettre de toucher quelqu'un, en tout cas d'accéder à quelqu'un, pour que cette personne soit en mesure de recevoir le discours qu'on essaye d'avoir.
Salut, je voulais te poser une question par rapport à ce ressenti franco-vénézuélien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un sens de no soy aquí ni soy allá? à la fois, on est né dans une terre, mais on reste en France pour des raisons qu'on ne veut pas forcément. On est loin de son pays et un pays qui change énormément à cause de la crise. Moi, je sais très bien de quoi je parle. Je suis aussi de Mérida, du coup, on a un peu vécu la même chose. On se sent déboussolé, peut-être. Quand on revient au Venezuela, on se dit y a quelque chose qui a changé. J'ai l'impression d'être un peu différent, peut-être. Quand on est en France, on ne se sent pas non plus être chez soi. Est-ce qu'il y a un peu ça dans ta musique? Comment tu as réussi à briser un peu cette dualité qui est un peu la même, un peu comme entre la vie et la mort?
Moi, j'appelle ça de la schizophrénie culturelle. Parce qu'il y a une telle différence entre les deux cultures que des fois, on a des réactions dans un contexte qui n'est pas le bon. Une réaction culturelle dans un contexte qui n'est pas adapté. Et donc, du coup, on se sent incomprise ou très seule. Et puis, à d'autres moments, dans le contexte inverse, on ne s'attend pas à avoir une réaction. C'est très étrange d'être hybride. Et effectivement, on n'est ni de là-bas, ni d'ici. Et c'est à travers ce projet de La Chica que j'ai réussi à... Ça a été ma quête identitaire, ce projet. Il est arrivé à un moment donné où j'avais besoin de comprendre qui j'étais. Parce que pendant très longtemps, j'avais l'impression qu'il fallait que j'appartienne à un groupe. Très souvent, les gens demandent de choisir. Et c'est difficile de choisir parce que quand on est nourri par des choses radicalement différentes, en fait, il y a du bon partout. Et ça n'a pas de sens de choisir, de même que ça n'a pas de chance de choisir entre un aspect de soi-même. Et cette quête identitaire, elle a été vitale. Et c'est grâce à la musique et grâce au son, parce que c'est quand je me suis mise à faire des chansons et que je me suis aperçue que ça ressemblait à rien au départ, parce que personne comprenait le style, c'était pas très clair. J'étais en France à ce moment-là, les gens comprenaient pas de quoi je parlais en espagnol. Et au moment où je le sortais, le reggaeton n'avait pas encore pris d'assaut la planète. Rosalía n'était pas passée par là. Donc là, une des rares référence musicale qui existait, c'était Manu Chao. Dès que je faisais écouter ce que je faisais, on me disait « Ah, Manu Chao, faire un duo avec, faut quelque chose. » Et j'ai... Mais je me disais « Quel... C'est fou quand même d'avoir si peu de liens avec l'Amérique latine comme pour... » Et en fait, j'ai appris à comprendre, j'ai appris à entendre ce que voulaient dire les gens, à ne pas m'offusquer, à essayer de leur expliquer la démarche que j'avais, qui n'était pas de représenter l'Amérique latine, mais de me représenter moi en tant que personne hybride, donc de représenter un nouveau paysage. Un truc qui emprunte peut-être la chaleur là-bas, la terre, et qui va prendre peut-être le ciel et les nuages d'ici, et qui va raconter ce qui s'est passé quand j'étais petite, etc. Donc ça m'appartient, c'est un nouveau paysage, et ceux qui veulent rentrer dedans et le connaître, bienvenue. Mais c'était assez insupportable au départ d'entendre des critiques de médias, surtout les médias et les pros, parce que le public ne fait pas ça. Mais les médias et les pros me disaient pourquoi... Ils ne comprenaient pas pourquoi je ne faisais pas de l'électrocumbia, par exemple, parce que c'était le genre qui était à la mode à ce moment-là. Mais ça n'a rien à voir, je ne suis pas... Déjà, pourquoi je ferais de la cumbia? Pourquoi de l'électrocumbia? Ça venait d'apparaître en Argentine, la cumbia... vient de Colombie, elle s'est développée aussi au Panama et au Mexique. Je ne comprenais pas ce que me disaient les médias et j'avais l'impression juste d'entendre un discours néocolonialiste de comment devrait sonner une musique qui vient de là-bas. Et ça m'a tellement agacée et ça pouvait pas prendre que pendant quelques années, je suis allée vivre au Mexique. Mon frère était parti vivre au Mexique à partir de la crise au Venezuela et il m'a dit... Viens, le Mexique va comprendre ton discours. Et quand je suis arrivée au Mexique, je suis arrivée sur une terre qui est un mélange. Le Mexique, c'est le Nord, en vrai. Et c'est très moderne. C'est un pays qui a été influencé par les États-Unis et qui a aussi énormément influencé les États-Unis. Donc, il y a une culture occidentale qui est beaucoup plus présente. Et au moment où j'avais besoin d'oreilles attentives, c'est au Mexique que je suis allée trouver des gens qui m'ont ouvert les bras et accueilli. Donc je suis allée chercher un nouveau paysage qui était pour moi entre les deux, entre une culture très, très traditionnelle et folklorique, plus au sud et l'Occident. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, c'est pas grave d'être en lutte entre les deux. L'important, c'est de me connaître moi et qu'est-ce que je vais raconter et quel est le discours que je vais divulguer à travers ma musique. Quels sont les messages, les valeurs, l'amour ou l'aide humaine que je peux apporter à travers ça. En fait, c'est ça qui va compter. Peu importe d'où je suis venue au départ, ça s'est déjà transformé. On est dans une ère où avec les réseaux, on a accès à tout ce qui se passe à travers le monde. Et on a accès en fait à la culture des autres et on est nourri par cette culture-là parce qu'on est nourri par un sens de l'humour qui existe là-bas, par une trend qui s'est faite dans tel pays. Donc, cette question de la schizophrénie identitaire, elle s'est énormément calmée depuis que j'assume exactement qui je suis en tant qu'individu sur cette planète.
Moi, ce n'est pas vraiment une question. Mais c'est plus... En fait, je trouve que ça demande beaucoup de courage de faire de la musique, et notamment ce que tu fais, parce que tu dis que c'est très personnel. Enfin, ça demande pas de pudeur, mais je dirais... Enfin, je sais pas comment tu vis la critique quand les gens peuvent critiquer la musique que tu peux faire, alors que ça vient vraiment du plus profond de toi. Enfin, en fait, je trouve ça courageux de faire ça, quoi, c'est tout.
Ben, merci. Mais en fait, les gens, ils auront toujours un truc à dire quand on leur a pas demandé. Donc... Finalement, ceux qui sont dans l'action sont peut-être moins nombreux. Donc, peut-être que c'est ceux-là qui sont plus intéressants. Je ne sais pas. Quand on se met à faire de l'art, de toute façon, on s'expose à la critique. Et je crois que je suis contente de m'être mise à faire ça tard, parce que je me connaissais mieux, parce que je savais exactement de quoi je voulais parler. Et au moment où je me suis fait attaquer, j'avais des arguments, en tout cas.
Ce lien que tu entretiens avec la spiritualité, ça permet justement d'avoir un recul et d'être dans une autre dimension. Et justement, les rageux. Les rageux. Et ça te permet justement d'avoir du recul en te disant c'est juste qu'en fait, ils n'ont pas compris, ils ne sont juste pas informés ou pas assez ouverts, ils n'ont pas eu l'opportunité d'être ouverts. Cette rage, on peut même des fois l'entendre dans ta manière de jouer du piano. Est-ce qu'on peut appeler ça de la rage ? C'est hyper intime, le piano. C'est quoi le lien que tu entretiens avec cet instrument ? Et la rage, justement.
C'est une vraie relation. C'est la relation avec un être vivant. Parce que les pianos droits et les pianos à queue, ils sont faits de bois, qui est donc une matière qui est mouvante, qui est bougeante. Qui continue à se transformer. Et un piano qui n'est pas joué, il est triste, il ne sonne pas bien. Et un piano avec qui on a une discussion récurrente, il va se mettre à faire ressortir certaines fréquences. Donc j'ai une relation très particulière avec le piano parce que c'est un peu mon meilleur ami de quand j'étais petite et que je n'avais pas d'amis. Et que je pouvais parler avec lui à travers les sons et puis surtout lui confier ce qui n'allait pas. Donc il est revenu à moi quand mon frère est décédé et qu'il a fallu que je me reconnecte à nouveau à quelque chose de plus essentiel. Donc c'est une relation très forte que j'ai et oui, des fois je le malmène un peu, mais parce qu'il peut encaisser.
Une question là, qui me vient comme ça. Ton père, donc anarchiste punk, ouais. Qu'est-ce qu'il dit quand tu ramènes Debussy à la maison
Mon père, il m'a observé grandir. C'est pas quelqu'un qui est venu me dire qui j'étais ni ce que je devais faire. Au contraire, il avait beaucoup de respect pour mon individualité. Mon père, il a commencé à s'intéresser à ce que je faisais musicalement quand j'ai fait mon projet.
Ton projet musical ?
Ouais.
En solo ?
Quand j'ai créé La Chica, là, ça, avant ça, dire à mon père punk anarchiste que je vais lui en tourner avec Christophe Maé, j'ai failli me faire déshériter.
Ah, c'est pas punk ?
Ah, c'était pas validé par la maison mère. Il était juste rassuré que je puisse survivre en faisant un métier dans la musique. Ça lui plaisait.
Ok. Quand tu faisais ces cours de piano, du coup, tu étais en cours avec le El Duende, avec qui tu as fait un album maintenant. Est-ce que ce mentorat, cette professeure de piano, on la retrouve dans votre musique à tous les deux maintenant ?
De ouf. En fait, cette femme, elle était tellement particulière. Elle est décédée en 2019. À son âme. Elle avait une méthode qui était la sienne. Elle n'était pas du tout conventionnelle dans un système archi-poussiéreux de conservatoire. Pour elle, la musique et les sons étaient en relation avec le tout. Donc, quand on rentrait dans la salle de cours, elle nous faisait nous allonger sous le piano et elle jouait. Et elle disait, sent la vibration, ressent cette expérience-là. C'est incroyable d'être sous un piano et de prendre la vibration directe. C'est une des choses les plus puissantes que j'ai vécues, surtout avec elle qui jouait dessus. Donc elle commençait le cours par ça. Donc elle commençait par nous mettre dans un état vibratoire qui allait un peu nous laver, tu vois, peut-être de certaines énergies ou certain énervement qu'on avait en fin de journée après des cours. Et ensuite, elle prenait le pouls, parce qu'elle pratiquait la médecine chinoise aussi. Elle prenait le pouls et elle disait « Ah, il y a un problème avec ton foie. Donc on va travailler aujourd'hui, on va faire des études de bac en ré mineur. » Parce que le ré mineur, c'est la fréquence qui va travailler le foie, donc la foi et la relation avec les gens. Donc tout était... Elle m'a expliqué les bases de la musicothérapie qui dit que chaque son a une action directe sur les organes du corps.
C'est presque spirituel, chamanique, on revient un peu à ça.
Bon, on revient à la guérison, ouais.
Elisa, quand elle arrivait tout à l'heure au studio, elle nous dit « Ouais, j'ai écouté la chica, j'étais en transe dans le métro et tout. »
C'est vrai que ce truc d'être en transe, est-ce que toi, tu le ressens des fois où tu te sens vraiment partir et en fait, au-delà de ton piano, de toi, de ta performance sur scène ou une chose comme ça, t'es vraiment dans une bulle de transe, quoi. Un peu comme, je sais pas si vous avez vu le film Soul sur Disney.
Si, ouais.
Et c'est un artiste qui joue en montant du piano et qui se retrouve dans une petite dimension un peu autre part. Est-ce que des fois tu te sens comme ça?
Ouais.
Ah ouais. Trop bien.
Mais c'est le but. Ouais. C'est de venir altérer un peu cet état, quel qu'il soit, quelle que soit la manière dont je me sens ce jour-là, au moment où je monte sur scène, si c'est pour jouer, c'est pour aller charger ça.
Quand on parle de trans, est-ce que, par exemple, tu as eu des retours qui t'ont marqué ou particuliers de la part d'un public? Enfin, je ne sais pas, parce que là, on parle des émotions qu'on a pu ressentir en écoutant ta musique. Comment ils ont ressenti les choses, tout simplement?
Partout, j'ai pas eu de... C'est les réactions qui sont différentes, l'expressivité qui change. Il y a des terres qui sont plus expressives. Au Mexique, le public, il est dingue parce que c'est du lâcher prise. Il s'exprime sur le moment. En France, il y a une partie analytique, peut-être, où les gens reçoivent, ensuite ils analysent un peu et ils ont des choses très précises à dire avec des mots. Alors que dans d'autres pays, les gens vont juste dire c'était génial et ils sont en liesse et ça suffit aussi, même s'il n'y a pas tous les adjectifs pour décrire ce qu'ils ressentent. D'une manière générale, c'est plutôt cool. Je ne suis pas tombée sur des haters durant les concerts, en tout cas.
C'est quoi un très bon souvenir de concert? Est-ce qu'il y en a un là qui te vient en tête quand je te dis ça?
Peut-être des concerts qui ont lieu dans des conditions différentes. Dans des conditions de nature de fou. J'ai joué dans un festival au Mexique qui s'appelle le Festival del Sol et qui est entre deux montagnes sacrées avec un public d'indigènes. Et c'était assez fou parce que il y avait des applaudissements polis entre chaque chanson. Moi, je me dis, qu'est-ce que je fous là? Je suis au fin fond du Mexique en train de présenter une musique qui n'a rien à voir avec personne sur cette planète. Une fois de plus, je suis bizarre parce que ça a été ma sensation pendant très longtemps d'être bizarre. Et là, je me dis, je suis encore une fois de plus en train de prouver que je suis bizarre. C'est vraiment étrange. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté de penser à ça et je suis rentrée dedans et je me suis laissée porter. Et ce que j'ai vécu après avec les gens, parce que c'est après que ça s'est passé, ça, je l'oublierai jamais. J'oublierai jamais les regards, ce qu'ils m'ont dit, les phrases qui ont été dites à ce moment-là.
Ils t'ont dit quoi ?
Ça, je le garde pour moi.
Ah.
Non, parce qu'ils m'ont dit des secrets. Il y a des choses qui m'ont été offertes avec des mots et qui m'ont été offertes pour que je continue à les transformer, mais c'était fou.
Ça dure combien de temps un bon concert dans ta tête ? Le fait de sortir de scène et de te dire « Ah, ça s'est super bien passé ».
Ça peut durer une semaine.
Et à l'inverse, les fours, ils durent combien de temps?
Ça peut durer une semaine, parce que les fours, ça peut te drainer l'énergie, parce que tu perds toute ton énergie et tu te ressources pas. Les fours, ça peut traumatiser un peu. Mais après, j'en ai pris beaucoup des fours, donc c'est plus un traumatisme. Enfin, j'ai touché du bois très fort pour que ça arrive pas trop.
Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à la liberté sur scène, parce que bon, bah, t'as une bonne expérience de la scène. T'as aussi fait donc Sidewoman, j'imagine, dans des shows qui étaient millimétrés au clic dans l'oreille et on envoie et on envoie et on envoie. T'as fait du piano solo, art et concert où tu fais ce que tu veux. Enfin, donc, ma question c'est quand tu joues avec des gens en ton nom, quel est le degré de liberté de chacun, chacune sur scène? Est-ce que, comment sont construits les setlists? Est-ce qu'il y a une attention particulière à ça? Est-ce qu'il y a des plages, peut-être des grosses plages d'improvisation, vraiment des gros moments de liberté? Enfin, voilà, comment tu ressens un peu ce degré de liberté? Qu'est-ce qui, toi, il te fait plaisir? Qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie par rapport à toutes ces choses-là, quoi?
Il faut qu'il y en ait. En fait, un show, même s'il est millimétré et qu'il est travaillé techniquement, moi, je suis vraiment une grosse, grosse bosseuse. J'aime beaucoup ce travail en amont qui va me permettre, au moment où les concerts commencent, de laisser de côté la technique. Normalement, ce travail a déjà été fait, qui fait qu'au moment où tu commences à te présenter, tu n'es plus en train de réfléchir à ces choses-là. Et c'est là qu'il peut y avoir de l'improvisation, c'est là qu'il peut y avoir du lâcher-prise. Et il est toléré à partir du moment où il vient raconter quelque chose. Par exemple, avec l'orchestre, on a des arrangements qui sont très spécifiques, qui ont été écrits sur une partition pour que les musiciens les jouent tels quels. En revanche, il existe des plages d'expression pour eux. Ils savent très bien où elles sont. Des fins de chansons où le riff tourne, où la rythmique tourne. Et là, ils ont de la place pour pouvoir s'écouter les uns les autres et savoir qui prend la parole. Il y a des moments d'expression, par exemple, pour la clarinette basse ou pour la flûte alto, qui sont des instruments que j'adore et qui ont une texture, un son tellement beau que j'avais envie qu'on les entende seuls. Donc, je les laisse faire leur bail à ce moment-là. Je leur dis, t'as une minute, deux minutes en intro de ça. Et comme ça, tu nous amènes dans l'intro du prochain morceau et ça fait une belle transition. Et là, je les laisse faire exactement ce qu'ils ont envie de jouer sur le moment. Je ne vais pas leur dire quelle note. Mais ouais, au contraire, j'aime beaucoup ça.
Du coup, roucoucou. je voulais poser une question par rapport dans le processus de création. Est-ce qu'il y a des pannes d'inspiration? J'imagine que ça doit arriver. Est-ce qu'elles sont régulières? Et comment est-ce que tu fais pour te remettre dans le chemin de la création? Et aussi, quand dans ce processus de création, il y avait quelqu'un qui avait posé la question de est-ce que c'est l'émotion qui vient d'abord? Moi, ma question, ça serait est-ce que c'est d'abord le son, puis après le texte qui vient, ou d'abord le texte et le son qui vient? Et comment, voilà.
Alors, ouais, il y a des pannes, bien sûr. C'est assez insupportable parce que quand ça arrive, je remets toute ma vie en question. Parce que c'est, du coup, j'ai plus d'utilité. Quand, une fois que j'ai composé l'album pour mon frère, donc c'était en 2020, mon frère est décédé en juillet 2020. Donc en août, je me suis mise à écrire ces chansons pour lui. En fin septembre, l'album était plié, masterisé, et on commençait la promo et il sortait fin en décembre 2020. Donc le dernier processus créatif a été ultra rapide. J'étais un peu en transe émotionnelle et je ne me souviens pas de tout. Et ensuite, je me suis mise à le présenter sur scène. Et là, les chansons ont pris vie, elles se sont transformées. Et ça m'a fait du bien. Et j'ai commencé ce processus de deuil à travers la tournée. Au bout de 2 ans de tournée, je me suis dit, bon, là, ça fait un moment que je chante la même chose. J'ai besoin de commencer à raconter un peu l'évolution, là où ça en est. J'aimerais bien savoir, je me questionnais de savoir où ça en était. Et je me suis mise à composer et c'était nul. C'était vraiment... c'était plat, ça racontait rien. Donc j'ai fait plusieurs tentatives un peu qui ont échoué. Puis je m'y suis remise 6 mois plus tard et c'était vraiment nul. Et vraiment, je racontais rien. Et je me suis dit, bon, en fait, je suis séchée. Ça m'a beaucoup travaillé toute cette histoire de deuil. Peut-être que j'ai besoin de vivre des nouvelles choses, parce que sinon je vais me remettre à parler de ça, et on ne va pas faire 20 albums sur la mort non plus. L'idée, c'est d'avoir une évolution, donc peut-être qu'il faut aller se mettre à vivre, sauf que comme j'étais en tournée tout le temps, ce que je pouvais raconter, c'était les aéroports, les retards des trains, la relation avec le public, mais c'est comme si j'avais arrêté mon expérience personnelle et que j'étais concentrée sur le deuil pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller mieux, mais j'avais rien de neuf à raconter. Donc forcément, dès que j'ai essayé de faire des nouvelles chansons, ça voulait rien dire. Et je l'ai hyper mal vécu parce que je me suis sentie vraiment mauvaise Et je me suis même dit que j'arriverais plus jamais à composer et que finalement, autant arrêter. Et j'étais hyper dramatique et extrême. Et c'est revenu petit à petit. C'est revenu petit à petit dès que je me suis remise à voyager, dès que je me suis remise à vivre des choses tout simplement et avoir des expériences et que je me suis reconnectée aussi au monde réel parce que finalement j'étais restée un peu coincée dans ma propre bulle avec toutes ces émotions du deuil qui est long quoi, ça prend du temps et au fur et à mesure j'ai pu commencer à me rouvrir au monde et là j'avais des nouvelles choses à raconter et là je suis en train de composer là depuis quelques mois des choses qui veulent dire qui racontent quelque chose en tout cas, donc ça va mieux mais j'étais en galère. Vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, ça me met dans tous mes états. Si je n'arrive pas à composer, je me dis que je n'ai plus aucune utilité et que à quoi bon ? Et c'est vraiment le drama, c'est terrible. Non, et puis, je n'ai pas une armée de gens qui bossent pour moi non plus. Donc, tout vient de moi à chaque fois. Donc, si moi, je ne viens pas créer le truc de base, il n'y a rien qui se passe. Donc, ça, c'est un peu... Ça peut être très déstabilisant aussi. Et je peux en arriver à envier Beyoncé et me dire « Mais elle a des gens pour faire ça pour elle. » Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir et que ce n'est pas le sujet. Mais oui, je deviens très, très drama.
Non, mais c'est trop bien.
Bonjour. Salut. Ma question, c'était par rapport à toutes les émotions qui vous ont inspiré d'écrire votre album, surtout le deuil, est-ce qu'il y a des musiques que vous ne pouvez plus jouer en scène ? Et comment vous faites pour redécouvrir ces musiques, pour réapprendre à les aimer et pouvoir les rejouer en scène ?
Les musiques que je peux plus jouer, je les joue pas. Parce que si je raconte plus, enfin si je sens plus ce que je suis en train de raconter, il y a des morceaux qui peuvent évoluer et devenir avoir une autre forme et ça a toujours du sens et ça marche. En revanche, ceux qui ont, par exemple, il y a des morceaux qui ont un lien très spécifique avec la mort de mon frère, et ceux-là, au bout de 4 ans de les avoir sortis de moi, j'ai plus besoin de les chanter, donc je les chanterai plus.
Bonsoir. Moi, je voulais demander quels sont les styles de musique d'Amérique du Sud dont tu te sens le plus proche, si c'est les musiques traditionnelles ou un peu plus actuelles. Et comment tu as fait pour mélanger un peu les deux styles que toi, tu fais ?
Alors, il y a une différence entre ce que j'aime écouter et ce que je fais. Dans ce que j'aime écouter, il y a énormément de salsa. Salsa brava, la salsa des années 70-80. La salsa de la Fania. J'adore le merengue. J'adore le merengue. J'adore le merengue vénézuélien. J'adore le 6-8 vénézuélien. J'adore le joropo. Et j'adore la musique de la côte vénézuélienne qu'on appelle tambores. Et je crois que finalement, de tout ça, il n'y a que les tambores que j'ai réussi à inclure dans la musique que je fais, qui est plus personnelle, mais parce qu'il y a un lien direct avec la danse et avec la terre et avec une énergie de feu et avec les rituels et avec des rituels de mort et avec Maria Leonza. Donc c'est surtout les tambores qui ont pu être inclus dans ce que je fais. Sinon, j'écoute de la salsa tout le temps.
Rebonsoir. En fait, tout à l'heure, vous parliez des haters et tout ça, et je me demandais justement, parce qu'en général, moi, quand je regarde les commentaires aussi bien sur YouTube que sur les posts Instagram, c'est toujours des gens qui sont très touchés par votre musique, et j'ai jamais vu de commentaires négatifs. Et en fait, c'était savoir un peu comment ça se passait, votre relation avec le public, parce que maintenant, avec les réseaux, c'est très facile de contacter les artistes. Savoir un peu comment ça se passait, justement. Est-ce que vous étiez inondé ? C'est dur de répondre ? Est-ce que...
Effectivement, je reçois quand même beaucoup d'amour. Je me sens très reconnaissante. Il y a eu des commentaires, j'ai déjà reçu des commentaires négatifs ou très critiques. Je ne les calcule pas trop. Et c'est hyper agréable pour moi de savoir que vraiment que ça résonne. C'est toujours des messages trop beaux. Je crois que c'est pour ça que je fais de la musique au départ, pour générer ces émotions. Donc ça me fait du bien quand l'énergie elle revient sous forme de mots et de messages positifs.
Moi, je voulais faire un lien avec... du coup, tu disais les musiques, enfin, le style de musique que tu aimais bien. Est-ce qu'il y a un genre musical que tu aimerais potentiellement explorer à l'avenir ? Je sais pas, du rap, peut-être ? Je sais pas. Je dis ça au pif, mais est-ce que, ouais, y aurait quelque chose que tu aimerais potentiellement tester et, ouais.
Le rap et le hip-hop, ça fait partie de ma vie depuis mon enfance. Vraiment, j'ai grandi dans ça. Pour moi, je l'entends, mais peut-être pas tout le monde. Pour moi, il y a toujours une influence de hip-hop dans ce que je fais. Et ouais, j'aime bien le spoken word et j'aime bien l'aspect rappé. Je prends de temps en temps j'ai cette tendance et je crois que je le fais de plus en plus, d'ailleurs. Je suis pas rappeuse non plus en soi. Non, oui. Pas...
je vais pas m'inventer rappeuse du jour.
Et quand tu enregistrais tes premières chansons en solo, tu étais complètement seule ou tu avais un ingé son, tu avais une équipe, tu avais des producteurs ou c'est vraiment solo en studio ou dans la chambre ?
Chez moi.
Chez toi. Avec l'orchestre, c'est plus trop possible, je suppose.
Non, avec l'orchestre, il fallait trouver un endroit. On n'a pas fait ça chez moi.
Le salon n'est pas assez grand.
J'ai fait appel à un ami à moi qui est très très bon ingé son. Je savais que c'est lui qui saurait enregistrer et faire sonner un orchestre. Et c'est lui qui nous a trouvé un lieu pas cher. On s'est démerdé pour trouver des micros, etc. Ça a été quand même fait maison, mais avec des gens qui savent faire.
J'aimerais bifurquer là complètement, parler un peu de politique. L'Amérique du Sud, c'est quand même un lieu qui est très politique et très musical aussi. Et les deux sont souvent en intersection. Par exemple, au Brésil, il y a eu des mouvements musicaux qui sont apparus sous la dictature. Est-ce que tu penses que, ou tu aimerais peut-être que ta musique fasse un changement sur la politique, que les gens y voient quelque chose, projettent des choses, se rallient autour ? Est-ce que c'est une des choses que tu aimerais ou... Enfin, c'est un peu penser beaucoup de soi-même de aussi de vouloir ça, mais est-ce que c'est...
C'est-à-dire qu'on peut avoir un impact aussi.
Oui, voilà, c'est ça.
Qui dit crise dit art, déjà. Donc, bien évidemment, dès qu'il y a une crise, les artistes sont là pour refléter ce qui est en train de se passer, pour ouvrir, sortir la voix, raconter ce qu'il en est. On reste quand même les troubadours et les saltimbanques. C'est vrai. À l'époque, on racontait quel roi avait gagné quelle bataille. Et aujourd'hui, on raconte quel nouveau président décide de se comporter de telle manière. Quel impact ça a sur nous ? À quel point ? Bref. Donc, moi, tout ce que je remarque, c'est que depuis que le Venezuela est clairement en crise, j'ai rencontré énormément d'artistes vénézuéliens à travers le monde parce qu'il y a eu un mouvement de fuite du pays. Il y a eu plus de 6 millions de Vénézuéliens qui sont partis en quelques années, même plus maintenant. Et du coup, on les voit maintenant ailleurs dans le monde et ils s'expriment soit à travers la bouffe en montant des areperas et en proposant des arepas au monde entier, soit par la musique. Et ça me fait vibrer. Parce que ça va toujours exister. D'ailleurs, la première chose que fait une dictature, c'est couper la voix des artistes et couper les budgets de la culture. Victor Jara, qui est un artiste chilien, s'est fait couper la langue, par exemple, quand la dictature est arrivée au pouvoir. C'est un acte symbolique très fort. Et c'est la même chose, et c'est un peu ce qui est en train de se passer en France d'une manière plus tiède et moins directe, mais c'est en train de se mettre en place clairement. On coupe tous les budgets culture, on va faire en sorte d'annuler notre existence. Il a été dit dans les médias que jusqu'à présent, on a été tolérés. Les artistes ont été tolérés. Maintenant, va falloir les annuler. Donc non, moi, je crois toujours en le pouvoir de la musique. Et j'entends les voix s'élever et j'entends beaucoup de discours de Vénézuéliens à travers le monde qui me font du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Après, moi, je ne sais pas quel impact je pourrais avoir là-dessus.
Ah oui, il n'y a pas d'album de contestation de...
Si, chaque chanson que je fais est une contestation. Mais après, l'impact que ça a, ça, je ne peux pas le prévoir.
Grazie.
Merci. Merci, c'était super. Je pense qu'on peut continuer de l'applaudir, s'il vous plaît. Ce sera tout pour ce soir. Merci encore à tous et à toutes d'être venus. Merci pour vos questions, c'était génial. Merci à Pierre, à la technique là-bas. On peut applaudir Pierre, s'il vous plaît.
Ouais.
Qui est régisseur ici. Merci à Juliette, évidemment, à la DVC. Merci à toute la DVC pour avoir organisé ça. Voilà, donc merci encore à tous d'être venus.
Et surtout,
merci à Sophie, évidemment.
Surtout, merci la Chica.
Évidemment, merci la Chica. Allez, on s'applaudit, tout le monde s'applaudit.